Natacha Valla, bonjour.
Bonjour.
Senior Advisor chez... Non. Je raye ça.
Il faut que tu aies
tué. Oui. Non, mais c'est pas possible.
Vous voyez que Natacha, elle change sans arrêt. Hein.
Oui, c'est vrai. Je l'ai connue dans une banque américaine, après une grande banque centrale. Enfin, c'est terrible. Doyenne de l'École du Management et de l'Innovation de Sciences Po, présidente du Conseil National de la Productivité. Et vous avez publié Le Futur de la Monnaie chez Odile Jacob. Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour.
Président des Cahiers Verts de l'Économie Dissipée, Jean-Pierre, ce matin. Bonjour. Organisme de conseil en stratégie d'investissement. Bonjour, Frédéric Farah.
Bonjour.
Économiste, enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous avez publié « No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe » chez Fayard. Stress de marché, Jean-Pierre Petit ? Ou alors non-événement ?
D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire le MEDEF et ce que tu dis toi-même.
Ce que vient de dire le MEDEF, quoi ? On leur demande... Je peux vous le faire, en gros, programme éco, oui, il existe.
Alors, je vais m'exprimer.
Alors, exprimez-vous.
En disant que Tsipras était un gars de gauche... Et même qui tangentait un peu avec l'extrême gauche.
Et
c'est centrisé.
Oui.
Mélanie, qui a été élue en octobre 2022, on disait, alors c'était l'appellation des journalistes français post-fascistes. Et en fait, non seulement, il y a rien, mais alors strictement rien qui ressemble un tant soit peu au fascisme ou à l'extrême droite, qui a été réalisé depuis presque 2 ans. Les seuls trucs sont des trucs hyper symboliques, comme l'accord avec la Tunisie sur l'immigration, de petites mesures très symboliques sur Made in Italy. Donc, moi, j'ai bien suivi, parce que moi, j'ai recommandé en octobre 2022 d'acheter de la dette italienne. Et ça a super bien marché, d'ailleurs, la réduction du spread avec la France. Donc, Meloni, c'est... Alors, sur le strict plan économique, c'est également centrisé. Mais donc, je ne comprends pas l'expression du MEDEF ou de ce que tu viens de dire.
Alors, je précise ce que je veux dire. Tu vois arriver des gars au pouvoir qui viennent avec des grandes postures, bombant le torse, et après, une fois de plus, on fait campagne en vert et on gouverne en prose. Et ben, ils ont
Mais je vois pas l'expression mélanchonisée.
Non, mélonisée.
Mais non, mais Mélanie, c'est très.
Elle a mis de l'eau dans son vin, Mélanie, quand même.
Et c'est exactement ce que je viens de te dire.
Et c'est exactement ce que je suis en train de dire.
Alors, ça, c'est. Le
MEDEF est convaincu.
L'hypothèse Mélanie, ce serait l'hypothèse préférée des marchés.
Oui, ce que
sans
je veux
l'ombre
dire,
d'un doute.
Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas faire toute la liste de toutes les mesures de dépenses, de recettes, les promesses incertaines d'économie. Mais en tout cas, la certitude du MEDEF, c'est-à-dire ce programme économique, évidemment, pour nous, il n'est pas business friendly, mais on est certain que s'ils arrivaient aux affaires, ils ne le mettraient pas en place ou de manière symbolique. C'est ça qu'on appelle la mélanisation.
Mélanisation, ça je suis d'accord, mais pas la mélanchonisation.
Mais j'ai pas dit Mélenchon.
Ah, si.
Non, il a dit Mélanie.
Il a dit Mélanie.
Jean-Pierre, sans vouloir être de mauvais esprit,
j'ai mal compris.
J'ai dit le RN se méloniserait.
Et ça, ça plaît pas au MEDEF. Alors là.
Si, mais si.
Ah, bah alors.
Mais
c'est pas la peine de dramatiser.
Non, on dramatise. Le MEDEF dit hier, évidemment, c'est pas notre tasse de thé, ce programme économique, mais on sait que dans la vraie vie et la réalité aux affaires, il y a plein de trucs qui vont être édulcorés et qu'il y a plein de choses qui n'existeront pas. Donc, on est plutôt rassuré sur le fait qu'on n'ira pas au bout de l'ensemble des propositions. C'est ce que j'appelle une mélonisation.
Mais de toutes les propositions.
Mais
Barbé, là, t'as déjà répondu. Il a fait une interview dans laquelle il a dit ah bah la réforme des retraites, on va faire un audit et on verra. Donc, il t'a déjà répondu qu'il y a un programme.
Il y a une semaine, en dessous de 20 ans avec 40 ans de cotis, c'était 60 ans. Hein, je suis désolé.
Non mais.
Et là, c'est plus ça aujourd'hui.
Même pas ça. Beaucoup plus compliqué.
De toutes les façons.
Frédéric va tenter d'en placer une. Non, mais il faut pas hésiter, Jean-Pierre.
Non, mais je crois que la mélanisation, et non pas la mélanchonisation, je tiens à dire, parce qu'il n'y a pas eu de confusion depuis le début, oui, elle aura lieu, mais ils ont même pas besoin de l'énoncer. À partir du moment...
Quoi ? Allons-y.
À partir du moment où, depuis un moment de ça... on a accepté l'euro. Alors, accepter l'euro, ça veut dire accepter aussi l'encadrement budgétaire qui l'accompagne. Donc, c'est-à-dire accepter la réforme du pacte de stabilité qui est en cours. À partir du moment où on accepte de ne pas sortir de l'Union européenne, donc c'est-à-dire d'accepter le fonctionnement du marché unique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Libre circulation des capitaux, libre circulation des biens et services, libre circulation des personnes. Une fois qu'on accepte ce cadre général, il est évident que des mesures qui s'en éloigneraient trop ne peuvent qu'être amendées. Sinon, on ne peut pas dire d'un côté, j'accepte le cadre européen, et c'est-à-dire ce, et les obligations qui vont avec, les recommandations du semestre européen, les orientations qui sont proposées dans le nouveau pacte de stabilité, et de l'autre côté, expliquer qu'on va raser gratis, qu'on va dépenser dans tous les sens, et autres. Donc, je pense que Meloni, c'est le bon exemple, et d'ailleurs, quand Meloni arrive aux affaires, qu'est-ce qu'elle fait pour rassurer tout le monde? Elle reprend des gens de l'équipe Draghi,
oui.
Comment dire, dans son équipe, pour montrer le sérieux
oui,
budgétaire.
C'était Draghi l'ouvrier. Oui.
Voilà. Ah, et oui. Immédiatement, elle a envoyé 160 000 SMS à des allocataires de ce qu'on appelait le RSA à l'italienne, qui était le revenu de citoyenneté qui avait été mis en place quelques années auparavant, pour dire tout ça c'est fini. Elle a envoyé ça par SMS, donc elle a fait ça d'une brutalité terrible. Elle a dit elle va remplacer ça par un chèque d'inclusion.
Ah oui, je me souviens,
le chèque d'inclusion, ouais. Qui va être moins généreux que cela. Et puis elle a expliqué, dans une logique très européenne aussi, qu'il était nécessaire de passer d'un welfare à un workfare, parce qu'elle estimait que le welfare qui poussait, comme par exemple son revenu de citoyenneté, à désinciter au travail, et qu'elle voulait faire quelque chose qui était plus incitatif, comme on retrouve dans l'assurance chômage. Donc, les fondamentaux généraux, le Rassemblement National, bon, Front National, c'est kiff-kiff bourricot,
hein, c'est RN aujourd'hui,
eh bien, va reprendre ce chemin. Alors, si on croit qu'il y a une rupture profonde qui va arriver en politique économique, non. Et puis deuxièmement, si un vent de folie traversait ces individus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on verra sur les marchés financiers que ça va s'agiter. Et ensuite, je vois très bien l'audit qui va être mis en place par le RN et qui se conclura. Les amis, on avait plein de bonnes idées, mais la situation des finances est plus dégradée que possible. Ce sera remis à plus tard. Et tout le monde fera ton bras du ciel en disant oh, mais quelle surprise!
Bah là, en fait, Frédéric, vous nous décrivez la vie politique française comme d'habitude. Hein.
Mais bien sûr! Mais évidemment, mais pourquoi il y aurait autre chose?
Non, mais oui, mais c'est ça.
On fait un peu comme si les élections avaient déjà eu lieu. Elles n'ont pas encore eu lieu. Donc il y a déjà quand même un certain aléa.
C'est un grand classique politique, en fait.
Si on fait le lien avec l'évolution sur les spreads, parce que ça, c'est quand même. J'allais y revenir. C'est quand même une question intéressante.
Revenons sur ça.
On voit effectivement qu'il y a un frémissement, un écartement des spreads souverains de la France par rapport à l'Allemagne. Bon, bref.
Rien de dramatique aujourd'hui.
Rien de dramatique aujourd'hui.
En Italie
mais
aussi.
En Italie aussi. Mais c'est un signal. C'est-à-dire que c'est un signal, à mon avis, de trois choses. La première chose, c'est que jusqu'à maintenant, on a bénéficié de la part des marchés d'une clémence. On a un marché de la dette profond, liquide. On a un actif de référence. Bon, tout ça a été quand même très, très stable, malgré une conduite des finances publiques qui n'était pas forcément très, très rigoureuse. On l'a vu
pas
sur
forcément.
Le dernier budget.
C'est vrai.
Je fais le film.
C'est
bon. Donc,
elle
gros,
a un sens de l'anecdote, Natacha.
On payait un peu moins cher que ce qu'on aurait pu finalement si les choses avaient été bien dans les prix, comme on dit. Ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a d'abord beaucoup d'incertitudes à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à hier, il y a beaucoup d'incertitudes politiques. Et dans le champ des réalisations possibles à l'issue de cette incertitude, il y a des scénarios qui sont des scénarios extrêmes, qui seraient des scénarios où une politique économique qui serait appliquée pourrait induire des déséquilibres plus forts encore, entre parenthèses, des finances publiques, et qui donc inciterait les agences de notation, l'état fondamental des finances publiques à se détériorer. Et ça, on le sent, ça a été un peu la réaction d'impulsion des marchés financiers, de ceux qui ont plus d'incertitudes, ça va pas dans le bon sens, donc les spreads s'ajustent.
La prime de risque
c'est encore
augmente.
Minime. On reste là dans un scénario qui met dans le prix un risque crédit de la France, c'est-à-dire de l'État français au sein d'une union monétaire inchangée, dans une union européenne elle-même inchangée aussi. Ça, c'est pas très grave parce que c'est cohérent. On voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le mini-budget de Truss. Bon, elle est arrivée avec un budget qui n'était pas financé. Les marchés se sont cabrés. Alors là, c'était beaucoup plus sérieux. Mais ça a été radical. Et c'est un peu le langage de ceux qui disent aujourd'hui. Ben, heureusement qu'il y a les marchés. On verra au moment venu. Ils nous enverront le signal dont on a besoin pour revenir un petit peu dans une gestion saine des finances publiques. Le deuxième sujet, qui est un sujet d'une toute autre envergure, qu'on n'observe pas du tout aujourd'hui, mais on joue quand même avec le feu, donc il faut garder ça en tête, c'est que on vit dans un monde, et les jeunes générations vivent dans un monde où elles sont nées avec l'euro, où il y a toujours eu la Banque Centrale, où la Banque Centrale a pris des places nouvelles, a réinventé la pratique de la politique monétaire, donc on suppose que ce qu'on appelait dans les années 2008, 10, 12, 15, le spread euro, que la mise en danger de l'euro, ne fait pas partie des scénarios. Et là, moi, j'ai envie de dire, il faudra regarder au moment venu, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais c'est important qu'on reste dans un monde où l'euro ne sera pas remis en cause, ne sera pas remis en cause dans l'esprit des marchés financiers.
Oui. Il faut absolument que la Banque centrale soit vigilante pour éviter de revivre des moments de stress extrême sur l'euro où la question de sa disparition se pose.
C'est un peu ça. Moi, oui. Je pense que cet esprit de responsabilité, et ça a été toute la logique de la conduite de la politique de Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne, c'est de dire, en fait, la vraie question, elle est là. Donc, je m'inscris dans un mandat, je m'inscris dans un nouveau schéma de politique et de mise en œuvre de la politique monétaire, mais en réalité, je suis un acteur majeur. Et les gouvernements, en face de ça, membres de la zone euro, sont aussi des acteurs majeurs pour faire en sorte que, là, tout le monde y a intérêt, mais l'euro soit préservé.
Frédéric, et on essaie de passer la parole, mais allez-y, oui.
Oui, je ne vais pas être très, très long.
Je voudrais avoir l'avis de Jean-Pierre quand même sur le petit stress de 48 heures de petit stress de taux. Petit.
Mais oui, d'autant plus que cette question se pose, c'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale, comme elle a modifié sa politique économique, elle est... C'est pas qu'elle est en train de faire disparaître le filet de sécurité qu'elle a proposé aux États, mais disons que c'est elle qui, très largement... a fait en sorte qu'il y ait une détente sur les taux et éviter la crise des dettes souveraines. Alors aujourd'hui, la politique de la Banque centrale est moins accommodante. Il y a des règles budgétaires qui reviennent, même si on les pense moins dures que les précédentes, elles sont pas tout à fait satisfaisantes. Effectivement, il faudrait pas recréer les conditions où il y aurait à nouveau un stress qui arriverait sur les dettes souveraines. Mais je doute que si on se retrouve dans ce scénario, que la Banque centrale, même si on n'est plus avec Monsieur Draghi et on peut le regretter, reste passive.
Mais évidemment.
Elle ne pourra pas juste regarder...
Mais enfin, je veux dire par là que si... Là, on est dans un moment d'incertitude. Si on rentrait dans une période de pilotage politique très décalé de la France par rapport aux autres pays... La BCE va pas nous faire un QE français ad libitum. Continuez, faites ce que vous voulez, je suis là. Parce que, bon, comment vous vivez les 48 heures post-annonce de dissolution et petite réaction de tension sur le taux à 10 ans français?
Ouais, c'est assez logique sur les taux.
Oui, c'est assez logique.
Il n'y a pas que ça, hein, une petite baisse de l'euro. Et il y a, sur les valeurs domestiques françaises sur le marché actions, il y a aussi un de-rating. C'est-à-dire que le marché actions français, le CAC 40, par exemple, a sous-performé, mais au sein du CAC 40, ce sont surtout les valeurs domestiques ou les valeurs sensibles au taux. Les bancaires, par exemple, qui ont souffert. Les concessionnaires, ceux qui dépendent de la dépense publique, enfin de la commande publique plus exactement, qui ont souffert. Les small caps françaises ont plus souffert que les small caps européennes, parce qu'elles sont complètement dépendantes, enfin principalement dépendantes de la conjoncture française. Donc il y a un de-rating français actuellement sur les marchés modérés, mais qui avait déjà commencé un petit peu sur le spread de taux. Hein, parce que je rappelle qu'avant la dissolution, on était à 50 points de base. Il y a deux ans, on était à 20-30. Hein, déjà, il y avait déjà eu quelque chose. Et nous, on a un modèle basé sur les fondamentaux macroéconomiques, macrofinanciers, notamment le ratio de dette, le ratio de déficit, la position extérieure nette aussi, le déficit de la balance courante. Enfin, bon, bref, déjà, il y a une petite anomalie. Le spread français par rapport à l'Italie devrait être plus élevé, puisque l'Italie a un excédent de la balance courante. Elle a un solde, enfin, pas dans les années récentes à cause de Covid, mais dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, souvent un solde de primaire positive, ce qui est pas le cas de la France. Voilà. Voilà. Donc déjà, il y avait une petite anomalie. Une anomalie qui s'expliquait à cause du statut politique de la France, une grande puissance politique militaire, nucléaire. Statut financier, c'est un grand émetteur de dettes. Donc quand tu vends la France, où est-ce que tu vas? Soit sur l'Allemagne, tu gagnes rien. Soit sur l'Italie, mais tu n'oses pas prendre des risques. Et puis, moi j'avais dit aux clients que les agences de rating, ça n'aurait aucun impact, et ça n'a eu aucun impact. Par contre, s'il y avait une motion de censure, j'avais noté motion de censure ou dissolution, là, il fallait se poser des questions. Et donc là, il y a ça qui s'est passé. Alors, Natacha a raison de noter que contrairement au début des années 2010, effectivement, il n'y a pas de question sur l'appartenance à la zone euro ou à l'Union européenne. Alors, c'est là, ça se posait pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc. Au début de la décennie 2010, là, c'est plus le cas. Mais il y a quand même une incertitude politique indéniable qui génère un stress, une prime de risque autonome et qui... est pas facilement contrôlable, parce que sur le marché obligataire comme sur le marché actions, ce qui marche le mieux, c'est les stratégies momentum. En gros, le mimétisme structurel. Oui. Si les autres
Jean-Pierre,
le font,
moi,
je le
fais. Là, vous diriez à un investisseur, achète la France ou vend la France?
Non, absolument pas d'acheter la France actuellement. Je dis même plutôt de s'en tenir à l'écart. Pour l'instant, il y a trop d'incertitudes.
On verra après. Le problème, c'est que c'est loin le 7 juillet, dis donc.
C'est loin.
C'est loin le 7 juillet. Oui, c'est long. C'est un temps long sur un marché.
Pour une élection, là, il a fait court, Macron.
Oui, mais Liz Truss, elle a mis 4 jours à mettre la Grande-Bretagne.
Attention, Liz Truss, c'était un bon exemple, Natacha, sauf que Liz Truss ne faisait pas partie d'une union monétaire.
Oui,
là,
non.
Là, t'as quand même des coussins de sécurité, hein, donc voilà. Elle était toute seule, avec un déficit public, déficit de la balance courante.
Oui, mais.
Donc
oui.
Une difficulté, un peu comme le Royaume-Uni des années
60. Oui, le truc, Jean-Pierre, c'est qu'un stress de marché souverain, c'est comme un cancer foudroyant. Ça peut mettre moins de 5 jours. Et le 7 juillet, c'est dans.
Les marchés vont. Alors, c'est pour ça que Mélanie, c'est très important, parce que les marchés achètent plutôt Mélanie actuellement, c'est-à-dire en gros une alliance plus ou moins directe entre le Rassemblement National, une partie des Républicains, Reconquête. Bon, en gros, si c'est Mélanie, ça va. Après, on ne sait pas trop. Alors, si c'est la reconduite de l'actuelle majorité parlementaire, plus ou moins relative, enfin, j'ai du mal à imaginer majorité absolue, mais admettons relative comme en 2022, ça devrait aller également. Par contre, le vrai sujet, hein, c'est la NUP, ou enfin plus exactement le Front Populaire, parce que là,
C'est-à-dire, vous le mettez où le sujet ?
Ah bah, s'il y a une majorité de Front Populaire, je suis à peu près certain que le spread va s'écarter.
S'il y avait une majorité ?
Oui, majorité absolue. Ouais,
c'est-à-dire un Front Populaire ex-NUPES qui serait devant le RN.
Devant tout le monde, qui aurait la majorité absolue des sièges. Il y a 577 sièges.
Il faut 289. Toutes les enquêtes d'opinion mettent plus de 10 points d'écart quand même. Hein.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais si jamais les évolutions allaient dans ce sens...
10 points d'écart, c'est du... Par contre, effectivement...
Non, mais c'est pour ça qu'il n'est qu'à 65 points de base. Mais si jamais passer en tête dans les sondages...
Non, mais c'est pour cela... On marque une pause, Frédéric, vous réagirez dans un instant.
C'est pas un jugement personnel. Hein. Les questions des investisseurs.
Les premiers sondages mettent clairement le RN en tête, et en numéro 2, le Front Populaire, mais avec plus de 10 points d'écart. Il y a quand même un truc, c'est que il y a quelques mois, on disait, mais de toute façon, un défaut souverain de la France, au grand jamais... Mais est-ce que aujourd'hui l'incident de crédit tricolore est quelque chose qui
attention
peut... on marque une pause et moi je pose mes questions tout seul et puis
je donne mes réponses,
c'est
comme Georges
Marchais, c'est votre question, mais c'est ma réponse, je me réponds. On y va, à tout de suite.